French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Salut et bienvenue dans French Expat. Moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute.
On est retourné dans le sud, moi j'avais très mal vécu Paris. Genre on se pose, en limite on meurt là, enfin c'est fini, on bouge plus. San José, clairement, c'est pas la ville la plus sexy des États-Unis quoi. En fait, j'ai pris l'avion pour la première fois à 18 ans pour aller rejoindre à Paris, à Nico à Paris qui faisait ses concours d'ingénieur. Dans les États-Unis, moi j'avais jamais mis un pied, je connaissais très mal les États-Unis. 700 balles l'année dans l'école privée, c'est ce que je payais par mois pour 2 jours par semaine. J'avais dit, si dans 2 ans je suis pas heureuse, on rentre.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis. Mon invité du jour nous parle aujourd'hui depuis le cœur de la Silicon Valley en Californie, où une fois n'est pas coutume, il pleut au moment où nous enregistrons cet épisode. Cécile nous vient du sud de la France et pensait y passer le reste de sa vie tranquillement avec son mari, sa fille et auprès du reste de sa famille. C'était sans compter sur son mari qui, un jour en rentrant du boulot, partage avec elle une proposition d'expatriation pour aller s'installer en Californie. Hors de question pour mon invité, elle finira tout de même par céder et même par tomber amoureuse de sa nouvelle vie ici. Une fois passée la difficulté de la langue, le coût exorbitant de la vie dans la Silicon Valley et l'intégration dans une multitude de cultures locales, Cécile nous parle aussi de sa réinvention professionnelle loin de chez elle et très loin des codes qu'elle connaissait. Encore un épisode passionnant avec Cécile, aussi connue sur YouTube sous le pseudo de Nicila pour Nicolas, Cécile et Lana. J'espère que vous apprécierez ce tout premier épisode de l'année 2020. Je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Cécile. Bienvenue sur le podcast, Cécile.
Merci, enchantée d'être là.
Alors, tu nous parles d'où aujourd'hui ?
Je vous parle de San José, capitale de la Silicon Valley en Californie, où il ne fait aujourd'hui pas très beau, mais en temps normal, oui.
Bon, alors, pas très beau en Californie, c'est quoi comme temps ?
Alors là, ça fait quelques jours qu'on a de la pluie, sauf qu'on n'avait pas eu de pluie depuis avril, mars, mai, je sais plus,
oh,
par là.
Sérieux ?
Ouais, en fait, on passe tout l'été, on passe quasiment 6-7 mois tous les ans sans pluie l'été, mais wow. Sans pluie du tout, sans une goutte, ce qui fait qu'il y a des énormes incendies et tout ça. Et là, du coup, on se rattrape. Quand ça commence, généralement, on a une semaine où on est très mouillé et on est en plein dedans, voilà.
D'accord. Bon, écoute, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Alors, tu es en Californie depuis combien de temps ?
Depuis septembre 2014. Donc, on a fait nos 5 ans en septembre dernier, déjà.
Félicitations.
Merci.
C'est ta première expatriation ?
Alors oui, j'avais fait quelques villes en France, mais jamais à l'étranger, non.
D'accord. Alors justement, revenons en France. Alors avant ton départ aux États-Unis, tu viens du sud de la France, il me semble, c'est ça?
Ouais. Alors moi et mon mari, hein, tous les deux, on est de la Côte d'Azur, on est de Grasse, bon, surtout pour ceux qui connaissent, enfin voilà, entre Cannes, Grasse, vers cette zone-là. Alors avant de partir, en fait, on avait déjà eu pas mal de mouvements. Je suis tombée, en fait, on était à Paris en 2012, début 2012. Je suis tombée enceinte. De notre fille et en fait bon on n'avait pas vraiment envie d'avoir notre enfant sur Paris parce que bon déjà la vie parisienne c'était pas quelque chose forcément qui nous plaisait beaucoup et puis avoir un enfant à Paris c'est assez particulier. Du coup on était d'un commun accord en fait on était reparti vivre dans le sud sur la Côte d'Azur pour être aussi proche de nos familles pour avoir ce bébé.
Lui aussi est du sud de la France.
Ouais on s'est rencontrés au lycée à Grasse. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble, ça fera 17 ans.
High school sweetheart.
Exactement, j'adore cette expression qu'ont les Américains. D'ailleurs, je suis très fan de cette expression. C'est exactement ça. Voilà, donc en fait, on est revenu dans le sud et donc hyper content. Alors, mon mari continuait quand même à bosser sur Paris. Donc, il faisait les allers-retours à Paris du mardi au jeudi. Il était sur Paris, en fait. Et nous, on était tout le temps sur la côte. On était vraiment rentrés dans l'optique. On rentre, on pose nos valises à vie, quoi. Genre, on rentre, c'est fini. On a acheté l'appart, on a acheté la voiture. Enfin, vraiment, on s'est posé, quoi.
On se pose, ouais.
Voilà, genre, on se pose. En limite, on meurt là. Enfin, c'est fini, on bouge plus. On est retourné dans le sud. Moi, j'avais très mal vécu Paris. Et c'est vrai que j'attendais avec grande impatience un jour de rentrer chez moi, entre guillemets. Et j'étais la plus heureuse. Moi, j'étais photographe à l'époque, donc j'ai utilisé le sous-sol de la maison de mes parents, qui était lumineux, hein, c'est pas un sous-sol tout fermé, c'était vraiment un studio que j'ai transformé en studio photo. Voilà, j'avais une super clientèle, surtout à la fin, avant de partir. Enfin, j'étais complètement épanouie dans mon boulot. J'avais mon petit bébé avec qui j'étais, sauf quand je travaillais. En fait, l'avantage, c'est que mon beau-père me gardait ma fille pendant mes shootings, mais en gros, à part quand j'étais en shooting ou quand je faisais des retouches, mais ça, je le faisais quand elle était à la sieste à la maison, en gros, j'étais tout le temps avec ma fille. Donc voilà, j'ai pu profiter de mon bébé à fond, j'avais mon boulot, j'avais ma mère à 2 km, ma sœur habitait littéralement 2 étages en dessous de moi.
Ah, génial.
Ouais, c'est-à-dire que de mon balcon, je voyais son jardin, pour te dire, quand ma fille hurlait, parce que ma fille hurle très fort quand elle hurlait, ma sœur l'entendait, en fait, c'était à ce niveau-là.
Un petit message en disant, t'as besoin d'aide ou...
Ouais, en fait, ce qu'on faisait, c'est que quand je sortais mon chien pour pas réveiller ma fille, ma sœur avait le babyphone connecté dans la chambre de ma fille, pour te dire,
d'accord,
tu vois. C'était vraiment...
C'est bien, ça.
C'était énorme, et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que ma sœur a eu un bébé 3 mois avant. Donc, en fait, nos filles ont littéralement grandi ensemble, prenaient le bain ensemble tous les soirs. Enfin, on était hyper proches. Et donc, on était dans mode génial, on est posé, voilà.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé un truc. J'ai pas compris ce qui s'est passé, en fait. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé, d'ailleurs. En fait, mon mari bossait pour une boîte donc à Paris. Et à un moment, ils ont été rachetés, en fait, par une plus grosse boîte. Et ils ont dit, écoutez, on va ouvrir des locaux, parce qu'ils avaient de plus en plus de clients aux US. À la base, ils parlaient de la côte Est, mais alors nous, la côte Est, clairement, bof, New York, quoi. C'était New York, en gros. Alors, je pense qu'on l'aurait peut-être fait, mais clairement, j'y serais pas allée plus de bon cœur que ça, par rapport au froid, notamment. Et en fait, il s'avérait être qu'ils ont dit, écoutez, on va s'installer dans la Silicon, hein, c'est quand même clairement the place to be pour tout ce qui est nouvelles technologies. Et là, mon mari a dit, écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un sur place pour commencer à former les gens à notre outil et tout, moi, je veux bien y aller, en fait.
T'étais d'accord, toi?
Eh ben non, moi j'étais pas du tout d'accord. Le problème, il est là, c'est que moi si tu veux, j'étais vraiment, mais genre j'avais la vie parfaite, tu vois, j'étais bien, quoi. Et comme je te dis, on a acheté l'appart, on a acheté la voiture, enfin voilà, quoi. Et donc il m'a dit ça, j'ai fait ouais, au début je le prenais pas trop sérieusement. Et puis on s'est retrouvés, en fait, très vite, parce que ma fille, elle avait à peine 1 an. On s'est retrouvés ici en voyage de repérage à San José, justement. Donc, au début, on était à San José. Après, on en a profité pour faire un petit road trip en Californie, découvrir San Francisco, Los Angeles et tout. Mais les premiers jours, on est arrivé, on était là. Et je revois cette scène, d'ailleurs, qui, je pense, je me rappellerai à vie. J'étais dans le bain. Nico rentre dans la salle de bain et je me mets à pleurer en lui disant « Mais moi, je veux pas vivre ici, quoi. » Je veux dire, il n'y a rien à faire, c'est pas beau. Moi, j'ai ma vie de rêve dans mon sud. Je suis pas d'accord. Je veux pas vivre ici, quoi. Et en fait, mon mari a cette capacité des fois de s'en fiche un peu de la vie des gens parce que s'il pense que c'est la bonne solution, il y va. Donc en fait, on a quand même fait notre trip. Hein. Ça s'est hyper bien passé. C'était un merveilleux voyage. Découvert San Francisco. Je suis tombée amoureuse de San Francisco.
T'étais déjà allée aux États-Unis avant.
Ah mais alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a voyagé très tard parce que je viens d'une famille qui est pas très aisée. Donc en fait, je n'ai jamais voyagé avec mes parents petite. Jamais.
Donc c'était un gros voyage du coup pour toi.
Ouais.
Le repérage, là.
C'était énorme. En fait, j'ai pris l'avion pour la première fois à 18 ans pour aller rejoindre Nico à Paris qui faisait ses concours d'ingénieur. Après, grâce à lui, avec lui et sa famille, on a fait quelques voyages en Europe. On a fait Barcelone, on a fait Madrid, on a fait quelques petits voyages comme ça. Et on avait fait un énorme voyage, le premier gros voyage en 2008 en Thaïlande, qui était le plus beau voyage qu'on ait fait que tous les deux. Hein. C'était cinq semaines. On était étudiants, j'avais bossé à McDo comme une acharnée pendant tout le mois de juillet. Parce que bon, faut savoir que la Thaïlande, les billets d'avion, je crois que j'en avais eu pour 800 balles, mais sur place, ça coûte vraiment que dalle. Enfin, si tu te loges dans des guest house, tu manges pour rien, tu te loges pour rien. Donc, c'était un voyage qu'on avait pu se permettre et c'était un voyage, c'était l'un de mes plus beaux voyages qu'on a fait tous les deux, clairement. Et bref, en gros, oui, dans les États-Unis, moi, j'avais jamais mis un pied. Je connaissais très mal les États-Unis. J'avais pas d'a priori ou d'image spéciale des États-Unis. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vrai qu'en voyant San José, clairement, c'est pas la ville la plus sexy des États-Unis, quoi. Mais en voyant San Francisco, en voyant la côte, en descendant à LA, enfin, je me suis dit, ouais, c'est quand même, sachant que c'était le mois de novembre, il faisait beau, enfin, c'était quand même sympa. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, je pense qu'il m'a pas pris au sérieux, ou il était tellement dans son délire qu'il a fait les papiers et tout, un peu tout seul. Moi, faut savoir qu'en fait, à Paris, j'avais lâché mon boulot j'ai fait un bac plus 5 en marketing communication, et j'avais lâché mon boulot de chef de produit pour être photographe, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, bosser pour une boîte et pour des gens, ça me plaisait pas. Et en fait, il m'avait soutenu dans ça, dans le fait que, il m'avait laissé en gros prendre le risque de lâcher mon boulot pour faire un peu ma passion. Après, on était un peu redescendu dans le sud, c'était surtout moi qui avais poussé pour, voilà. Et donc je dis, bon, écoute, il a été cool avec moi en gros, maintenant c'est un peu à mon tour, c'est son tour, c'est sa carrière. Nico est très 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 carriériste, il a fait des études, voilà, il a travaillé très bien à l'école, enfin sa carrière c'est un peu toute sa vie, hein. Donc je me suis dit, bon allez, on teste. Et alors par contre, on est parti, je lui avais clairement dit, on se laisse 2 ans, si dans 2 ans ça va pas, on rentre, voilà, si je suis pas heureuse dans 2 ans, on rentre. Et là il m'avait dit ok.
Vous voilà 5 ans plus tard, on va en discuter. Alors avant de parler de toute ton expatriation, comment ça s'est passé pour ta fille? Je suis curieuse, c'est un truc qui me titille. Du coup, elle avait quoi? Elle avait 1 an et demi, 2 ans?
Elle est arrivée donc en septembre 2014, elle est née le 23 octobre, donc elle avait presque 2 ans, ma fille.
D'accord, donc elle commençait à parler.
Ouais, elle parlait super bien pour... en fait, moi, voilà, je parle beaucoup. Donc ma fille a hérité de ce gène parce que ma fille a parlé très, très, très tôt. D'ailleurs, j'avais très peur parce que je me suis dit, mince, elle progresse très vite en français. L'anglais, ça va la perturber, elle va stagner. Et en fait, bon, après, elle était quand même très petite, Lana. Hein, elle était très, très petite. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément eu de changement de...
On n'a pas souffert.
Non, elle s'est adaptée, mais franchement, on n'a eu aucun souci. Alors, les premiers temps, la première année, elle était vraiment exclusivement avec moi. On l'a pas scolarisé ou quoi, je l'ai gardé vraiment avec moi.
Donc ça permet une transition en douceur.
Ouais, c'est ça. On a eu la chance aussi de se faire vite des copains. Donc on n'a pas eu de soucis du tout par rapport à elle. En fait, on n'a pas eu de soucis du tout même par rapport à moi, parce que moi j'avais peur. Hein. Clairement, je me suis dit, vu comment je suis réticente, je vais faire des coups de blues et tout. Et en fait, pas du tout, quoi. Après, quand t'arrives, t'es tellement en mode chercher la maison, chercher la voiture, faire les papiers, le SSN, le machin. T'es tellement là-dedans, en fait, que tu t'as pas le temps vraiment de te poser, de te dire est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis pas bien. T'es tellement dans ça que voilà. Après, moi, j'avais une condition, c'était je veux bien y aller, mais je veux une maison. Parce qu'il faut savoir que San José, il y a énormément de maisons, c'est quasiment que des maisons. Et c'est vrai que moi, qui n'ai jamais vécu dans une maison de ma vie, ou même limite dans des tout petits appartements, c'était un peu un rêve pour moi d'avoir une maison avec un petit jardin. Alors c'était pas un château, hein, attention, on est à San José, l'immobilier est
très cher.
Ah non, mais c'est surréaliste, c'est clairement du surréalisme à ce niveau-là.
Tu peux donner une idée un peu d'un loyer,
je sais pas, par exemple, bien sûr. Alors en fait, on est arrivé ici, donc en fait, avant de partir. Ils nous disent le salaire de Nico. On fait « Oh là là, mais c'est un truc de
On va être trop riche.
Mais oui. T'imagines, genre, oh là là, on va être les rois du pétrole. Alors, je crois que quand on arrivait, je vais dire les chiffres si ça te dérange pas, parce que moi, j'ai pas forcément de tabou par rapport à ça. En gros, okay. Je crois qu'on arrivait, alors moi, je parle qu'en net par mois, parce que c'est la seule donnée qui me parle. Je crois qu'on était dans les 6 500 par mois de salaire. Donc, nous qui partons de la France, bon, on gagnait bien notre vie, hein, avant de partir. Moi, je commençais à bien travailler. Nico avait un salaire parisien. Donc, pour la Côte d'Azur, on n'était pas à plaindre non plus. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu fais « Ah ouais, c'est pas mal quand même ». Sauf qu'en fait, t'arrives, tu visites les maisons et notre première maison où on était, c'était quand on arrivait, parce que chaque année, le loyer monte, c'était 3200 balles, quoi. Donc, tu fais « Ah, ah bon, d'accord, ok ».
Ce prix-là, t'as pas le petit jardin et tout ce que
Alors, j'avais le petit jardin, hein, mais je t'avoue que les premiers mois, ça a été ric-rac, quoi. Genre, en fait, tu t'attends à clairement à être riche, entre guillemets, à bien vivre. Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin du mois, tu n'as plus d'argent, quoi. Et tu fais, mais. Et moi, il y a des matins où je me suis levée et j'ai dit à Nico, mais pourquoi on est là? Parce qu'au final, on galère alors qu'en France, on ne galérait pas, tu vois. Donc, bon, entre temps, il a changé de boulot. Moi, j'ai commencé à bosser aussi, donc ça va mieux. Mais c'est vrai qu'au début, en fait, il faut vraiment se préparer à ça quand tu viens ici, dans cette zone spécifique, parce que la vie est atrocement chère, en fait.
Et justement, ça me fait penser. Alors, du coup, il est venu, c'était une boîte française qu'il a envoyée aux États-Unis?
Alors, en fait, il s'était fait racheter par une boîte japonaise.
D'accord. Mais c'est ça, c'était pas une boîte américaine. Et c'est vrai que c'est souvent le cas, en fait. C'est que les entrepreneurs étrangers, en fait, pensent que, voilà, la vie est tellement... Enfin, les employés coûtent tellement cher aux États-Unis, écoute, ils vont pas nous faire chier. et alors, c'est vrai qu'après, on a tendance à aller se battre un peu, je sais pas, pour le 401K qui est le plan retraite ou pour la sécurité sociale. Et les gens comprennent pas forcément ce que ça représente, mais c'est vrai que c'est... Il y a tellement de charges, en fait. Les bruts sont plus hauts aux États-Unis, c'est clair, mais il y a énormément de charges qui sont pas prélevées directement du salaire auxquelles on doit contribuer, en fait, directement de notre poche, quoi.
C'est ça. Et en fait, le moment où ça nous a fait le plus mal, c'est la première année, ça allait parce qu'on n'avait pas vraiment de gros frais. Mais la deuxième année, en fait, on a décidé de scolariser Lana parce qu'on voulait qu'elle apprenne l'anglais avant d'arriver à l'école publique. Et là, alors là, l'école, c'est pire que tout, quoi. Quand j'entends mes proches en France qui me disent « Ouais, ben on paye 700 balles l'année dans l'école privée », je fais « Non, mais moi, c'est ce que je payais par mois pour 2 jours par semaine. Ouais. » Pour 2 jours par semaine, quoi.
C'est dingue.
Ah, c'était ouais, mais en fait, alors c'est une décision qu'on n'a jamais regrettée. On s'est mis clairement dans la mouise financièrement les premiers mois parce que c'était 700. L'année d'après, on l'a mis à 3 jours, donc c'était presque 1000. Sur 6000, ça fait, en plus de la maison, en plus de comme tu dis, de la couverture santé qui est très très chère et tout ça, mais c'est une décision qu'on n'a jamais regrettée parce que pour nous, c'était... Enfin, moi, ça faisait clairement partie des arguments pour lesquels je voulais vivre ici, c'était que ma fille soit bilingue. Parce que moi, j'ai toujours eu un anglais catastrophique. J'ai eu 7 au bac. Enfin, j'étais vraiment nulle en anglais, clairement. Et je voulais... Enfin, ma fille, en vivant ici, c'était pour moi... C'était la plus grande richesse pour moi, c'était que ma petite fille parle anglais, en fait. Et ça a hyper bien marché, quoi.
Et là, vous l'avez mise dans un système purement anglophone ou un peu...
Oui, on l'a mise dans une... Alors, en fait, la première année, comme je te disais, je n'ai rien fait pour elle. Je l'ai juste mise, en fait, au début de l'année. Donc, on arrive en septembre, je crois, vers janvier-février. J'ai rejoint un cours de gym, une salle de gym, où il y avait une garderie. Donc, au début, je la mettais là, donc 2 heures par semaine pour qu'elle soit gardée déjà, pour qu'elle soit gardée par quelqu'un d'autre que moi. Parce que, en France, elle était beaucoup gardée par la famille. Mais bon, ici, tu te retrouves un peu toute seule à pouvoir garder ton enfant. Donc, en fait, ça l'a déjà introduite. En plus de la télé, en plus de l'environnement quand même, où elle entend forcément de l'anglais en vivant là, dans les magasins, dans les choses comme ça. Je l'ai aussi, je l'ai inscrite immédiatement quand on arrivait à un cours de gym. Parce que déjà, je voulais qu'elle fasse du sport et parce que je voulais qu'elle se sociabilise avec des enfants américains, qu'elle parle anglais. Donc déjà, tout ce qui était comptine et tout ça, les petites chansons et tout qu'ils font au club de gym, ça l'avait aidé. Et donc, un an après, au bout d'un an d'expatriation, on l'a mis 2 jours par semaine dans une école, une preschool en fait, tout simplement, qui était super bien, qui fournissait les repas, qui était cuisinée sur place. Donc c'était elle-ci, qui était ouverte de 7h à 18h. Donc bon, là, moi, je ne l'ai jamais mise autant, mais je la mettais en gros, je l'emmenais vers 9h, je la laissais se réveiller tranquillement, je la reprenais vers 4-5h l'après-midi, 2 jours par semaine. L'année d'après, on a fait la même chose, mais 3 jours par semaine. Et après, elle a commencé l'école publique en TK. Ouais. Et du coup, elle a commencé l'école publique, elle maîtrisait très, très bien la langue, quoi.
D'accord. Et vous, à la maison, vous lui parlez que français, par contre?
Alors nous, on a une règle, c'est qu'elle a interdiction de nous parler en anglais.
Ah, voilà. Ouais.
Ça marche. Ça marche très bien. Ça marche. Ouais. Elle n'a jamais eu aucun problème avec ça. Ça lui arrive de faire du franglais quand elle parle un peu de l'école, mais c'est très, très, très rare. Bon, après, comme toutes les petites filles de 7 ans, je pense, elle a des problèmes des fois avec voilà, la place des mots, surtout en plus avec l'anglais qui perturbe un peu, le subjonctif et tout ça. Mais en fait, quand je rentre en France l'été, je me rends compte que les autres copains du même âge ont les mêmes problèmes. Alors, mais moi, nous, on est catégoriques, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'essaye même pas de nous parler anglais. Et l'avantage qu'on a, bah, c'est que tous les deux, on est français, donc il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est comme ça dans la
ouais,
maison.
Il n'y a pas de conflit sur la langue de la maison, quoi.
Non, c'est pas comme s'il y en avait un des deux, tu vois. Là, c'est tout le monde parle français et basta. Et ça pose aucun problème, quoi.
Ouais, écoute, je suis un petit peu jalouse, tu vois. Moi, c'est un truc qui m'inquiète pour mon fils,
ah ouais,
sur quelle langue il va parler.
Alors moi, je suis toujours admirative du parent qui arrive à garder la langue maternelle alors que... Ah ouais.
Je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu en arrière, parce qu'en fait, tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, en France, on entend souvent parler de la Silicon Valley, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous resituer un petit peu ? Donc, on est en théorie, on n'est pas très loin de San Francisco, mais le trafic, les bouchons, c'est le bazar, quoi. C'est un peu d'ailleurs une... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé, quand je venais pour le boulot, une grosse anomalie d'être dans une ville, dans une région du monde aussi innovante, mais qui n'est pas vraiment de transport en commun efficace entre San Francisco et la Silicon Valley.
C'est ça.
Et alors, la Silicon Valley, donc San José, c'est un peu la capitale, c'est l'aéroport, etc. Et puis, il y a Palo Alto, il y a Menlo Park, enfin, il y a Facebook, Apple, Amazon n'est pas par là, c'est Seattle, mais... Voilà, on a les grosses boîtes de tech. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette région-là ? Et en fait, en revenant un tout petit peu en arrière, à quoi est-ce que tu t'attendais avant d'y arriver, puisque tu n'étais pas venue aux États-Unis et tout et tout ? Et puis après, comment ça s'est passé ?
Alors, je pense que je m'attendais pas à... Enfin, j'avais pas vraiment de choses auxquelles m'attendre parce que je connaissais vraiment pas. Mais alors, vraiment, vraiment pas. Alors, on est arrivé ici, c'est vrai que c'est tout plat. C'est tout grand, c'est tout. Voilà, les autoroutes sont immenses, les rues sont immenses, et tout est assez bas en fait. C'est pas des gros buildings, c'est pas des choses comme ça. Quand on arrivait, on avait visité Google qui m'a. J'ai dit mais c'est pas possible, c'est une ville. Enfin, c'était tellement gigantesque. C'est même encore aujourd'hui. Enfin, ils arrêtent pas de s'agrandir de toute façon. Donc ils prennent une place incroyable. On avait juste regardé un peu le campus de Facebook et tout. En fait, oui, toutes les grosses boîtes. Enfin, quasiment toutes les grosses boîtes sont ici. Donc, en fait, c'est un paysage assez bizarre. T'as des grosses boîtes et puis t'as des maisons. Si tu regardes une vue de Google Earth, de satellite, tu vois bah, des quadrillages de maisons par milliers, et par-ci, par-là, des grosses boîtes. Alors, c'est vrai que c'est pas très sexy. Clairement, voilà, moi, les gens, quand ils disent « Ah, ben, je viens passer quelques jours à San José », je leur dis « Non, mais, enfin, va un petit peu plus loin, mais... » c'est pas très glamour. Par contre, quand tu y vis, en fait, c'est assez sympathique. C'est-à-dire que, voilà, c'est tranquille. C'est vraiment la petite, entre guillemets, cité ou dortoir, en fait, où t'as tous les petites maisons, les petits jardins, les gens qui baladent leurs chiens. Enfin, moi, là où je suis, alors c'est marrant parce que je suis dans une ville d'un million d'habitants, mais j'ai l'impression que je suis, dans un petit... Pas la campagne parce que c'est pas non plus si vert que ça, mais c'est vraiment tranquille en fait. T'as pas de bruit. Voilà, c'est vraiment la tranquillité. Bon, tu dois prendre ta voiture pour tout évidemment, mais tu vas à cinq minutes de chez moi, j'ai le Target, j'ai les restos, j'ai plein de petits endroits comme ça pour vivre. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Il y a plein de sports, tous les sports possibles, imaginables. Il y a des choses qui sont assez chères. Il y a des choses qui sont dans les community centers, donc c'est clairement accessible. Voilà, et moi, ce que j'aime le plus dans la Silicon, en fait, alors quand je suis arrivée la première année, ouais, je me suis dit, mais c'est quoi ça, en fait, c'est pas glamour. Et en fait, en vivant là, déjà, bon, t'apprends, bon, déjà il fait beau, on a une météo qui est quand même, enfin nous qui venons du sud, voilà, clairement c'est à peu près la même chose, voire encore mieux, donc c'est une qualité de vie, voilà, rien que d'avoir le soleil quasiment tous les jours, bah c'est merveilleux. La gentillesse des gens est absolument,
Venant du sud aussi, ça fait du bien.
Le sud et Paris, là, quand je rentre l'été, je fais « Oh !» Alors, attends, on se remet, parce qu'ici, clairement, moi, j'ai l'habitude de dire « C'est le pays des bisounours », mais c'est ça, tout le monde est souriant. « Hey, how are you ?» Puis bon, plus les gens sont comme ça, plus toi, t'es comme ça, plus c'est un cercle vertueux et c'est clairement magique. Et moi, la chose que j'aime le plus ici, c'est qu'en fait, on est tous du monde entier, clairement. Des Américains purs et durs qui viennent d'ici, il n'y en a quasiment pas. Donc tu as des Asiatiques mais partout, des Mexicains. Alors on n'a pas beaucoup de personnes de couleur noire, c'est vrai. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais on a beaucoup d'Indiens, on a beaucoup d'Asiatiques, mais d'Asiatiques de tout, hein, des Japonais, des Chinois, des Coréens. Moi, ma meilleure amie américaine, elle est coréenne d'origine, elle est née aux États-Unis, mais elle est américaine d'origine. Et en fait, tu vois, bon, nous on est français, donc on est des étrangers aussi là-dedans. Et en fait, on est tous contents d'être là parce que ça a tous été un peu un rêve entre guillemets pour nos maris ou pour les femmes aussi de vivre dans un endroit où il y a une opportunité professionnelle digne de ce nom. Parce qu'en gros, les ingénieurs, c'est la meilleure partie du monde pour être ingénieur. C'est ce que je dis souvent. On me dit pourquoi t'es là? J'ai dit en fait, je suis là parce que mon mari est ingénieur et que clairement, pour être ingénieur, l'endroit du monde où tu seras le plus reconnu, c'est ici. Voilà. Parce que Paris à côté, c'était rien, quoi. Enfin, c'était rien, quoi. Ici, c'est, t'es ingénieur, t'étais un peu le roi du. Enfin, t'étais la personne que toutes les boîtes recherchent et t'es vraiment valorisé, en fait. Et du coup, en fait, tout le monde est content d'être là, quoi. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça. Et en fait, ce qui fait, c'est que tout ce qui est racisme, ouverture d'esprit, en fait, c'est vraiment, voilà, t'as pas de racisme, t'as tous les gens qui apportent leur culture. Par exemple, tu vois, ma fille, elle a fait sa première année à l'école publique en TK, il y a 3 ans maintenant. La maîtresse, elle nous a fait la réunion de mi-d'année, elle nous a dit, vous savez quoi? Il y a 24 élèves dans cette classe, il y a 12 langues parlées.
Waouh, c'est riche ça, c'est génial.
Voilà. C'est génial, c'est-à-dire que le matin, tu te pointes à l'école avec ton enfant. Moi, je lui parle en français, la maman d'à côté parle espagnol, la maman d'à côté parle indien, la maman... Et en fait... Et puis ça pose de problème à personne, hein, parce qu'on est tous un peu comme ça. Donc, et c'est beau, moi je trouve ça. Tu regardes la photo de classe de ma fille, tu as littéralement toutes les couleurs de peau possibles, imaginables. Tu as la très blanche et tu as le de l'autre côté le petit garçon très foncé. Enfin, t'as toutes les couleurs. C'est vraiment, on dirait une pub Benetton, tu vois le truc. Non, mais vraiment, c'est très très beau. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus en vivant ici.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'ils savent bien faire. On me demandait justement cette semaine encore pourquoi tu restes aux États-Unis. Je dis, je me sens libre, mais de quoi est-ce que tu te sens libre? Et en fait, le truc, c'est que je me sens vraiment pas étrangère et c'est hyper agréable.
C'est ça. Et en fait, tu vois, même quand tu arrives et que tu galères, tu vois, j'avais un niveau d'anglais qui était vraiment mais nul, quoi. Et je suis là, et tu sais, j'arrivais pas à m'exprimer, ça m'énervait. Et la personne a dit, non mais c'est bon, explique-moi, raconte-moi. Et en fait, ils ont tellement l'habitude des gens qui parlent mal anglais, si tu veux, que ça passe crème, quoi. Ils sont pas là, genre, elle me saoule, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle veut. C'est genre, vas-y, explique-moi, montre-moi une photo sur Google. Tu vois, ils prennent le temps parce qu'ils savent, en fait. Et puis souvent, eux-mêmes sont à la base pas forcément des gens d'ici, tu vois. Donc, c'est très, très, très appréciable. Par contre, à côté de ça, le problème, c'est que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais tu vis aux États-Unis, mais tu fréquentes quasiment que des Français. » Alors oui, parce qu'en fait, le problème, c'est pas... Enfin, moi, je vois pas ça comme un problème, mais comme il y a très peu d'Américains, au final, purs et durs, dans ma zone... c'est vrai qu'on a tendance à tous se regrouper par communauté parce que faut pas mentir. Moi, j'ai essentiellement mes amis sont essentiellement français, des expats comme moi. T'es content de retrouver un peu du pays, de parler français, de pas galérer à t'exprimer, d'avoir un peu les mêmes valeurs entre guillemets, les mêmes coutumes. Voilà. Enfin, clairement, il y a des blagues. Je ferai un américain déjà, je saurais même pas comment le traduire. Et puis, tu sais, j'aurais peur du bide, tu vois. Là, c'est voilà, on n'a pas ce problème-là. On a nos enfants. En plus, on a eu la chance. On est arrivé. On a un petit groupe là où on a des enfants. Ils ont 2 mois d'écart max. Donc, ils ont tous vécu. Et on est quasiment tous arrivés en même temps. Donc, ils ont vraiment vécu leur expatriation ensemble. Alors, par contre, on les a tous perdus. C'est-à-dire que maintenant, ils se voient, ils se parlent qu'en anglais. On les a tous perdus. Et ça, c'est arrivé très, très vite. Hein. Au bout de 2-3 ans, c'était fini. Maintenant, ils sont en mode, ils se voient, ils parlent anglais. Là, on est là. Aaah! Alors que nous, on se parle encore, évidemment, tous en français, tu vois. Et on dit, mais les enfants, c'est perdu. On les a perdus, quoi. C'est fini. C'est marrant. Alors, au début, moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu ma fille parler anglais avec... des petits expats français, des copains, je me suis mise à chialer. Je me suis dit, oh là là, ça y est, elle a sa l'aise, elle parle anglais d'elle-même, enfin, c'est un truc de ouf et tout. Alors maintenant, c'est en français.
Et alors, tu me disais que ton mari, du coup, a changé de boîte entre-temps. Vous êtes arrivé sur quel visa, sans indiscrétion?
Alors nous, on est arrivé sur un visa L1 et L2. Alors, J'ai envie de te dire la base, parce qu'ici, 90% de mes amis, en fait, 90% de tous les gens qui vivent ici. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve votre podcast hyper intéressant, parce qu'en fait, moi, je suis habituée à un modèle d'expat, qui est le mien, que je vais te raconter. Et en fait, ça me fait plaisir d'entendre, en fait, qu'il y a des parcours qui sont, mais totalement différents, avec des visas totalement différents que des fois je ne connaissais pas, notamment l'histoire de votre, témoignage à Disney. Alors ça, c'est un truc que je ne connaissais, mais pas du tout. Et du coup, je me dis, ah, mais en fait, il y a d'autres moyens de venir aux US. Et c'est vrai que moi, je suis un peu dans ma zone où on vient tous, en gros, visa L1. Et en gros, nous, on est les femmes d'eux qui suivons nos maris ingénieurs. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui vient de Russie ou n'importe où. Tu fais, ah, mais pourquoi t'es là? Bah, mon mari est ingénieur. Fait, ouais, bah, normal, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, bah, c'est la base, quoi. Enfin... Donc, on est venu en visa L1, L2. Enfin, moi, j'avais le L2, si je dis pas de bêtises, Elana aussi.
Donc, le L2, du coup, t'as pas le droit de travailler, hein, c'est ça? Il n'y a pas un truc comme ça?
Si, moi, j'ai eu mon... Si, t'as le droit. Alors, moi, c'était un peu un de mes critères aussi que je puisse bosser, parce que moi, je deviens folle si je fais rien. Non, moi, j'ai pu bosser quasiment... Bah, j'ai fait les papiers de suite. Après, au début, j'étais un peu paumée professionnellement parlant. Et donc, nous, on est venu en visa L. Et en fait, l'avantage qu'on a eu, c'est que la boîte de Nico lui a fait les papiers de green tout de suite. Pardon, les auditeurs. De carte mère, qui permet d'avoir la résidence permanente aux États-Unis. Et en fait, donc, ils ont fait ça. Et ça a été, on a eu beaucoup de chance. On était encore sur Obama, d'ailleurs, à l'époque. Donc, je pense que ça a beaucoup facilité. On n'a pas eu l'interview à la fin. Donc, en fait, en 2 ans, en plus, on a payé les accélérateurs et tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, en 2 ans, on a eu la green card. Voilà. Et en fait...
Libre de bosser où il veut...
Alors, en fait, à la base, il n'avait pas forcément l'intention de changer de boîte, mais en fait, il faut savoir que quand tu es en process de green card, ton intitulé de poste et notamment ton salaire et tout ça, en fait, tu peux pas avoir de grosses promotions, tu peux pas prendre en hiérarchie et tout ça, donc tu stagnes, en fait, pendant 2 ans. Il a stagné, Nico, professionnellement, ce qui a fait que, voilà, il a pas trop changé de salaire et tout les 2 premières années. Et à la fin, en fait, il lui avait dit, quand t'auras la green, tu deviendras directeur avec tant, nanana. Et en fait, ils ont pas du tout respecté leur engagement. Mais alors, pas du tout. Ils lui ont dit, oh, mais finalement, t'es trop jeune, nanana. Alors que c'est clairement une remarque que tu n'entends jamais aux États-Unis. Le t'es trop jeune, alors que dans son boulot actuel, il a des responsabilités de malade alors qu'il a à peine 33 ans, tu vois. Et en fait, il a dit, bon, bah, écoutez, vous me donnez pas ce que vous m'avez promis, sachant que Nico, il se fait harponner comme... En plus, lui, il a la chance d'avoir la double casquette. Il est ingénieur, mais ingénieur aussi commercial, parce qu'il a sa dernière année d'études, il a fait à l'EM Lyon.
D'accord.
Donc, en fait, il a aussi un diplôme d'école de commerce. Il a cet avant. Donc en fait, il a cette double casquette ingénieur et commercial est un profil qui est clairement très 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 recherché ici. Et en gros, il avait juste à ouvrir ses mails et à répondre aux offres LinkedIn et puis il est parti. Mais une fraction de seconde, il a trouvé bien bien mieux qui est la boîte dans laquelle il est actuellement, où il est épanoui, mais 1000 fois mieux que dans l'ancien.
Génial, donc 0 regret.
Ah non, alors là, non. En fait, il était un peu bloqué par rapport au process de green card dans l'autre, mais ça allait pas du tout. Enfin, la boîte, elle est d'ailleurs aujourd'hui, je sais même pas si elle est encore là, ça allait pas du tout, du tout, du tout, quoi. Que ce soit management, que ce soit profit, enfin, c'était une catastrophe. Donc là, il est sorti de ça. Et il était, franchement, à un moment, moi, je l'ai senti vraiment mal et je me suis dit, si ça continue, il va au burn-out, quoi, vraiment, parce qu'il était vraiment mais mal professionnellement. Et c'est quelqu'un qui est tellement investi dans son travail que dès que ça va pas au boulot, ça va pas. Tu vois, ça va pas du tout, quoi. Donc du coup, il a changé et je pense juste à temps vraiment avant de passer vraiment d'un côté qui aurait vraiment pas été drôle. Et depuis, il est heureux, mais comme tout. Puis il sait que si ça va pas, il peut maintenant changer, quoi. Et c'est pas les opportunités et les propositions qui manquent, donc.
Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on n'est pas particulièrement fidèle à son employeur. En France, on a tendance à avoir un peu peur du fait que ça, mais c'est pas un CDI, donc on peut te virer du jour au lendemain. Ouais, mais ça va dans les deux sens. Et voilà, quand on n'est pas heureux, on est quand même assez proche du plein emploi aux États-Unis. C'est hyper facile de trouver un taf, quoi.
Surtout ici. Surtout. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas cette peur. Demain, il se fait virer, parce que comme tu dis, il peut se faire virer. Demain, il arrive, il se fait virer. Demain, il se fait virer. En fait. C'est pas grave parce qu'en fait, on sait que dans quelques jours, ils retrouveront un autre truc, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font comme ils savent qu'il y a ça et qu'ils savent que toutes les boîtes se disputent les plus gros, les meilleurs profils, ils te retiennent un peu avec les stock options, quoi. Ils te disent, t'as tant de stock options par an et t'auras la totalité dans 4 ans. Donc c'est comme ça qu'ils tiennent les ingénieurs. C'est leur... Et ça marche très bien, hein, parce que bah, t'es assis sur temps, tu te dis, bon, bah, ce serait dommage de partir avant d'avoir cette somme, quoi.
Bien sûr. Ouais, non, c'est clair. Et alors, en parlant carrière, Cécile, donc tu étais photographe avant de partir en Californie. Comment ça s'est passé? Donc, tu dis que tu as fait les papiers très rapidement pour pouvoir bosser. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ton arrivée, toi, professionnellement?
Alors, moi, professionnellement, j'ai fait pas mal de boulot dans ma vie. Donc, au final, j'étais, donc, je te disais, chef de produit à Paris au bout de mes études. Je suis restée en finale, je crois, un an et demi dans ce poste. En fait, j'ai compris que ça ne me convenait pas. À côté de ça, je commençais un peu à faire de la photo. Donc, ouais, j'ai fini. Bon, je te le passe vite parce que sinon, ça a duré deux heures. Mais en gros, j'ai fini photographe à Paris. Je suis redescendue dans le sud, j'ai ouvert mon studio et tout ça. Et donc, je suis arrivée ici en me disant, bah, je vais continuer, je vais être photographe, en fait. Donc, je fais mon site, je regarde les concurrents, je me rends compte que les tarifs sont waouh. Je me dis, ah ouais, moi, avec mon 150 balles le shooting, si tu veux, c'était bon marché. Ici, un shooting sans donner les photos, hein. T'as même pas les photos, c'est déjà 800 dollars, tu vois. Tu fais, wow. Ok. Les gens n'ont pas les photos, ils ont juste la séance, tu vois. Donc, bref, je monte mon site qui est en ligne, qui s'appelle 16photos.com et qui est un peu mort. Enfin, il est là, mais il est pas mis à jour. Et en fait, donc comme on a, je te disais, les premières années c'était un petit peu rude. En gros, Nico et moi, on s'est dit bon, il faut quand même que je contribue un peu parce que voilà quoi. Et donc du coup là, en fait, moi en parallèle de ça, quand ma fille est née, j'ai ouvert un blog qui s'appelait nicila.com où je racontais juste ma vie. Mais littéralement, en fait, j'avais déjà ouvert un blog juste avant parce qu'on avait accueilli une petite fille djiboutienne pour une opération du cœur à Paris. D'ailleurs, c'est là que j'ai capté qu'avoir un enfant à Paris, c'était pas possible. Du coup, j'avais fait un blog où je racontais son parcours avec nous, son opération, machin. Et en fait, quand elle est partie, j'étais enceinte quand on l'a eue, donc elle est partie, elle est rentrée chez elle, voilà. Que ce soit clair, elle va très bien, elle est juste rentrée chez elle à Djibouti et après donc j'ai accouché de ma fille quelques mois après et ça me manquait d'écrire, de partager tout ça, donc j'ai ouvert un blog, mais à la base ça aurait pu même être un blog privé, c'était vraiment juste comme ça. Et en fait, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, je pense que c'était un peu la folie des blogs à cette époque-là, c'était en 2012. Hello Coton, je sais pas si tu connais, mais c'était vraiment ce... Ouais, ah ben voilà, bah c'est fini, Hello Coton. C'est toute une période qui et bref. Et en fait, donc j'ai fait ce blog que j'ai alimenté très régulièrement, qui a pris de l'ampleur. Donc après, au bout d'un moment, bah forcément, j'ai annoncé qu'on venait ici. Donc bah là, ça, je pense que l'effet expatriation a fait que le blog a encore plus été lu. Et donc on est arrivé ici. Je commençais un peu à faire des vidéos pour illustrer mes articles, en fait. Des vidéos où, voilà, notamment à nos premiers jours, on a mis un peu ce qu'on aimait pas en Californie, voilà, des petits vlogs de mon shopping avec les magasins des États-Unis, enfin voilà. Et en fait, au bout d'un moment, donc à ce moment-là, ou deux ans après, en gros, même pas un an et demi après, j'ai dû me dire, ben, en gros, soit je fais photographe, mais je t'avoue que j'avais pas très envie parce que déjà, j'avais la barrière de la langue qui me faisait énormément peur. Je me suis dit, je suis pas légitime de demander des centaines de dollars à des gens dont je ne saurais même pas dire mets la main là, mets la main ci, tourne-toi, cambre-toi, tu vois. Et en fait, je le sentais pas. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'avais peur, en fait. Et donc aujourd'hui, j'en fais des shootings photos très très occasionnellement et j'ai toujours un gros stress avant, notamment par rapport à la barrière de la langue. Et en fait, j'avais un peu envie aussi de fermer ce chapitre et de commencer autre chose. Donc j'avais envie, en fait, de faire du YouTube, de faire de mon blog et de ma chaîne un peu mon activité, sauf que ça a gagné, bah au début je gagnais strictement rien, et du coup, mais j'avais quand même envie, tu vois, et ça m'embêtait de faire, parce qu'en fait j'avais du mal un peu à me dire faut que je me mette à fond sur les deux, sachant que j'ai en plus ma fille à temps plein avec moi. J'avais envie, en fait, de faire un choix et de me concentrer sur ce choix, mais le choix de la photo, je sais pas pourquoi, je le sentais pas, j'avais pas envie, j'avais vraiment envie, j'avais ce truc là qui m'appelait, qui me dit il y a un truc à faire, tu vois, et j'aimais ça, hein, clairement, j'aimais rédiger mes articles, j'aimais faire mes vidéos, j'aimais vraiment ça, mais je gagnais rien. Voilà, le problème était là et que j'avais besoin, en gros, de gagner de l'argent, quoi. Et donc, j'ai dit à Nico, j'ai dit, écoute, Nico, donne-moi 6 mois. Si dans 6 mois, je gagne toujours rien, je ferai de la photo. Et puis, il m'a dit, il a été encore une fois super cool, il m'a dit, ok. Donc, du coup, je me suis mis à fond dans mon blog. Le blog, je l'ai vite fermé parce que je commençais à avoir des vols de photos et ça m'embêtait. Donc,
Ouais.
Et en fait, à la fin, je me rendais compte que je faisais quasiment plus que de la vidéo parce que c'était un format qui me convenait très bien. Et je me suis dit, écoute, ferme le blog. Et ça m'a brisé le cœur. Hein. Clairement, mon blog, c'était mon bébé, c'était machin. Mais j'avais beaucoup de gens qui me volaient mes photos et ça m'embêtait beaucoup. J'avais pas envie que des photos de ma fille se retrouvent partout sur Internet. Donc, je l'ai fermé et je me suis concentrée sur ma chaîne. Et en fait, ça a marché. Bon, après, j'ai pas gagné des milliers de cents au bout de 6 mois, mais je commençais un peu à toucher quelques sous. Donc, je me suis dit, il y a potentiel. Donc, Nico m'a dit, écoute, continue. Et du coup, j'ai continué. Et depuis, je ne saurais pas te dire la date exacte, mais depuis en gros 2-3 ans, mon activité, c'est YouTubeuse, quoi.
Ouais. C'est ton métier.
C'est mon métier.
Écoute, notre première YouTubeuse sur le podcast.
Ouais.
qui a envie.
Ouais, donc c'est un métier un peu particulier, mais je me régale clairement. Voilà.
Tu as mentionné tout à l'heure un petit peu rapidement que tu observais un peu les progrès de Lana, ta fille, en français lors de tes retours en France. Vous rentrez régulièrement du coup là en France, et est-ce que vous avez prévu un retour plus permanent?
Alors, pour l'instant, on est arrivé donc en septembre. Le premier Noël, je voulais absolument rentrer pour passer Noël avec la famille. Donc, on est rentré très vite. On est rentré au bout de 2-3 mois. Mais c'était bien, je pense. Ça a fait une expatriation un peu plus en douceur. Sachant qu'en plus, on avait toujours reçu notre conteneur. Donc, on n'était pas vraiment installé. C'était pas agréable du tout. Donc, c'était une catastrophe. Donc, on est rentré en France. On est rentré de France. On avait tous nos cartons, nos meubles, tout. Donc là, c'était deuxième Noël. C'était, oh là là, ça y est, on s'installe, on fait la chambre de la petite, on lui enlève les barreaux de son lit. Enfin, et là, je pense que là, ça a vraiment commencé. Tu vois, l'expatriation, c'était vraiment à ce moment-là. Les papiers étaient faits, la voiture était là, la maison était là. Enfin, ça y est, ça pouvait vraiment commencer. Et je pense que le retour en France, ça a permis un peu de prendre du souffle avant de vraiment se lancer à fond. Et depuis, en fait, on rentre tous les étés. Voilà. Ça fait plusieurs années que j'aimerais ne pas rentrer parce que c'est le seul moment où ma fille a 2 mois de vacances maintenant qu'elle est à l'école publique, donc je peux pas l'enlever comme je veux, comme on le faisait jadis. Et en fait, c'est le moment où j'aimerais bien aller retourner en Thaïlande avec elle. Ça, c'est un peu un rêve pour moi de lui montrer la Thaïlande parce que je suis sûre qu'elle serait ouf. Ou de partir, en fait, de partir ne serait-ce que plus de 2 semaines quelque part autre. Parce qu'en fait, pendant l'année scolaire, comme elle a très peu de vacances, hein, l'école américaine, faut savoir qu'elle a très peu de vacances, elle a 2 semaines à Noël, mais à part ça, elle a qu'une semaine et elle en a pas beaucoup. Elle en a une à Thanksgiving, une en février, une en avril. Donc, c'est très, très peu. Et donc, si je veux faire un beau voyage, en gros, c'est l'été. Et le problème, c'est que les membres de notre famille, on en décide autrement. Donc, chaque année, ils nous mettent soit un mariage, soit une naissance. Voilà. Mais genre, la famille proche, quoi. Genre, les frères et sœurs, tu vois. Genre, là, tu fais... Ah, donc du coup on rentre. Donc là cette année on rentre parce que ma sœur a eu un petit bébé. En plus, je suis sûre qu'elle a fait exprès. Elle m'a mis marraine, donc elle veut baptiser la petite bébé. Donc je suis vraiment obligée de rentrer, tu vois.
Tu n'as pas le choix.
Ah là, je suis obligée. Donc, mais je pense, j'espère que l'été prochain on ne rentre pas et qu'on rentre par contre du coup à Noël. Donc ça fera 1 an et demi sans rentrer pour aller ailleurs en fait. Alors après le retour définitif, pas du tout en fait. Alors tu vois, moi j'étais. Alors d'ailleurs tout le monde se donne à cœur joie de me rappeler cette phrase que j'ai dit. Je me laisse 2 ans et dans 2 ans. En fait tout le monde a pris cette phrase comme dans 2 ans on rentre. Non, j'avais pas dit ça. J'avais dit si dans 2 ans je suis pas heureuse, on rentre. Sauf que en fait je surkiffe ma vie ici vraiment. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, mais je suis très très heureuse ici. Je trouve que c'est un pays qui me va très bien. Ouais, mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez nerveux, qui peut vite m'énerver, qui peut, tu vois, sur la route, vite klaxonner, tu vois. J'avais un peu ce tempérament-là, en plus, j'ai des origines italiennes, je suis bélier, enfin, tu vois, j'ai un peu un caractère assez pas cool, tu vois. Et en fait, ici, ça m'a apaisée, mais la Californie m'a apaisée, tu vois. Je sais pas si c'est la météo, le fait que ce soit assez calme, qu'il y ait personne qui klaxonne, qu'il y ait personne qui crie, ça a eu un effet super bénéfique sur moi par rapport à mon tempérament. Ça m'a vraiment apaisée en fait. Et limite quand je suis énervée ou quoi, je me dis mais enfin ça va pas avec le paysage en fait. Et en fait, non, mon mari, alors lui c'est hors de question, mais alors lui il est tellement Il a, en fait, c'est marrant parce que d'ailleurs, j'en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai dit, mais en fait, tu m'as jamais parlé d'aller vivre aux États-Unis avant ça. Et en fait, on a l'impression qu'il vit son rêve, alors que pour moi, qui était quand même avec lui depuis 10 ans à l'époque, je me dis, mais enfin, moi, je savais pas ça et je pensais pas ça. Et je pense que lui pensait pas non plus, mais lui, il est tellement... Il me dit, mais moi, il y a aucun autre endroit sur la planète où je pourrais aussi bien travailler qu'ici. Et lui, clairement, voilà, le soleil, enfin, tous les jours, il me dit, oh là là, regarde, il fait beau, oh là là. En plus, on a déménagé là récemment dans une maison qui est bien, bien, bien mieux que la précédente, parce que la précédente, elle était très bien au début, mais c'est vrai qu'elle était très vieillissante, pas du tout moderne, on avait plein de petits problèmes et tout. Et là, on a déménagé dans une maison qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus lumineuse. Et ça a vachement joué, ça, d'avoir du soleil dans notre maison. Et il est là, ah, j'adore notre maison. Enfin, Nico, il est en kiff total. Et alors, lui parler d'un retour en France, mais c'est impensable.
Hors de question.
Ah ouais, mais vraiment. Et en fait, moi non plus. Après, oui, bon, t'as toujours le manque de la France. T'es toujours content quand les gens viennent. T'es content quand tu rentres pour les voir. Mais voilà, en fait, au quotidien, moi, je suis très heureuse ici. Notre fille, elle, c'est pareil. Elle a jamais vraiment vécu en France parce qu'elle ne se rappelle pas du tout de sa vie en France. Elle, c'est l'américaine, hein, elle fait du cheerleading, l'école américaine, elle parle en anglais sans aucun accent, même limite, elle a l'accent un petit peu américain. Certaines personnes me disent ça, moi je trouve pas, mais que quand elle parle français, elle a un petit peu un accent américain. Enfin, elle, c'est l'américaine pure et dure, hein, enfin, dans ses expressions, dans sa façon de parler, elle te sort les petits mots, tu sais, que toi, tu sortiras jamais dans les phrases parce que c'est anyway, moi, ouais. Je ne sortirai jamais dans une phrase, tu vois, enfin, c'est ce genre de petites mimiques, tu vois, genre. Ah non, enfin, c'est trop mignon. Et elle est très heureuse d'être ici aussi. Donc non, pas du tout. Mais même ailleurs, en fait, des fois, les gens me disent, ah, tu voudrais aller dans un autre état, tu voudrais dans un autre pays. Mais encore une fois, ça par rapport au boulot de Nico. Et à moins qu'il ait une opportunité professionnelle dans sa boîte actuelle, mais il sait très bien qu'ici, il a la possibilité de changer de métier en un claquement de doigts, de changer de boîte. Et s'il va, même si la boîte l'envoie je ne sais où... Bon, déjà, moi, il y a très peu de destinations que j'accepterais de faire. Déjà, il faut qu'ils fassent au moins aussi beau qu'ici. Donc, si tu veux, c'est très limité. Je sais qu'ils ont des bureaux en Australie, par exemple. Donc, moi, je lui dis, tu sais quoi, l'Australie, si un jour, tu as l'opportunité.
Ah, c'est génial.
Ouais, pourquoi pas, tu vois. C'est un endroit qui me dirait bien. Et là, il me dit, non, parce que en Australie, il n'y a quand même pas autant de boîtes. Donc, si demain, pour une raison ou une autre, je perds mon boulot, je fais quoi? Enfin. Ah non, je pense qu'on est parti pour... Après,
bon, ah, donc, tu vois... le cadre de vie, la philosophie de vie, mais aussi la sécurité de l'emploi, au sens
exactement.
Où quoi qu'il arrive, tu sais que tu retrouveras quelque chose, quoi.
C'est ça. Et c'est exactement ça. Après, tu vois, on est redescendu sur la côte, on a acheté la maison, la voiture, et puis 2 ans après, on était parti. Et on ne s'y attendait pas du tout. Enfin, clairement, on n'était pas du tout parti pour bouger. Là, qui nous dit que dans un an, je ne sais. Enfin, en fait, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais pour l'instant,
il n'y a pas de plan.
Pas du tout.
De plan sur l'avenir.
Ah, mais moi, je fais plus de plan. Hein. Le dernier plan que j'ai fait, je suis rentrée sur la côte, j'étais pépère, et puis on m'a délogé un an après. Donc, si tu veux, j'ai compris ma leçon, tu vois. Je me suis dit, bon, écoute, on ne sait pas, en fait. Mais non, pour l'instant, le retour en France, non. Non, pas du tout.
Cécile, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu as l'air quand même très heureuse et épanouie. Je ne sais pas trop quoi te souhaiter pour l'avenir.
Que ça reste comme ça. Que tout le monde aille bien, que tout le monde soit en bonne santé. Que là, on est très bien. Là, je pense qu'on vit notre meilleure vie. Donc, ce serait juste bien que tout le monde en France aille bien, que tout le monde ici aille bien et qu'il n'y ait pas
de arrêtent de se marier et de faire des bébés.
Alors, plus de bébés, non. Moi, je suis petit enfant unique, non. Moi, je... tu vois, ça aussi, c'est pareil, curieusement. Bon, après, c'est vrai qu'on s'expatrie au moment où, généralement, les gens font leur deuxième. D'ailleurs, tous nos copains ont fait leur deuxième pendant que nous, on était là. En fait, on a une vie tellement remplie. Et moi, j'aime tellement... En plus, bon, maintenant, ma fille, elle a 7 ans. Donc, si tu veux... L'écart d'âge, enfin, j'ai un peu la flemme de me remettre là-dedans.
De recommencer, quoi.
Ouais, clairement. Je suis une grosse feignasse en plus, donc me remettre dans les. Oh là là, non. Et puis, même moi, j'aime bien voyager et tout ça, donc c'est quand même plus facile de voyager avec une fille, un seul enfant de 7 ans qu'avec un bébé et tout ça. Enfin, mais au contraire, plus elle grandit, plus j'ai envie de faire des choses avec elle, un peu plus, voilà, marcher, rando, voyage un peu plus exotique. Donc, non, ouais, on n'a pas du tout de. Bon, le mariage, on a dû le faire en 3 mois pour avoir le visa. Ça a été une partie de plaisir aussi.
Ah oui, un classique.
Bah ouais, parce qu'en fait, on n'avait jamais vraiment parlé de mariage, alors que ça faisait très longtemps qu'on était ensemble. Ça faisait 10 ans quand on s'est marié, plus de 11 ans quand on s'est marié. Mais voilà, hein, le visa, sinon moi je partais pas. Donc en 3 mois, mariage. D'ailleurs, un mariage qui a été très, très à notre image. On a dit, tu sais quoi, quitte à faire un mariage vite fait. On fait un mariage qui nous ressemble. Donc on s'est marié en jean Converse blanche. Moi, j'avais quand même un bustier de robe de mariée et lui, il avait une chemise. Mais et du coup, tous nos invités avaient ce dress code haut blanc, bas en jean. Et c'était mais génial. Alors c'était un mariage. Alors c'est pas le mariage qui remporterait des concours de mariage, mais j'ai fait mon bouquet avec des bouts de jeans en tissu et de la dentelle. Enfin, c'est un bouquet.
Ouais, t'as quand même eu le temps de préparer des trucs entre
moi. J'ai préparé énormément de choses. J'ai passé les 3 mois là quasiment à faire que ça. J'avais fait des trucs pour ranger les couverts. J'avais acheté plein de jeans à des brocantes. J'avais découpé des poches arrière pour mettre les couverts dedans. Enfin. Je m'étais régalée à faire mon mariage, mais c'était quand même un mariage en 3 mois et très petit budget, mais c'était sympathique, hein. Écoute, ça m'a permis de venir vivre en Californie. Et voilà.
Donc ça valait le coup.
Ouais, ça va. Ah, ouais, super. Vraiment, ça valait. Peut-être qu'on refera un vrai mariage plus tard, mais je.
Pour les 10 ans.
Peut-être à Hawaï. Hawaï, j'aimerais bien.
Ah, oh, ça pourrait être sympa.
On est à côté. On en profite.
Bah ouais, c'est clair, profitez-en, ce serait sympa. Alors Cécile, on approche la fin de l'épisode. Une des questions qu'on aime bien poser à la fin, alors tu nous as dit il n'y a rien à faire à San José, mais je ne suis pas complètement certaine. Ou en tout cas, dis-moi, quelles seraient les 3 choses à faire ou à voir ou à goûter ou à ramener, ou je ne sais pas, de ta région que tu recommanderais absolument à nos auditeurs qui viendraient dans ton coin ? À part venir te voir.
Alors, moi, j'ai 3 endroits que j'aime bien. Alors, c'est pareil, quand on est arrivé, on ne connaissait pas trop. Et puis, au fur et à mesure des années, on découvre de nouveaux endroits. Niveau naturel, il y a le parc qui s'appelle Alviso Marina Country Park. Bon, je ne te le prononce pas avec l'accent, je te le prononce à la française. C'est en fait c'est le bout de la baie qui est tout au nord de San José. Donc, San José, je ne sais pas si tu vois la baie de San Francisco, mais c'est vraiment dans le creux en bas. Et en fait, tu montes tout au nord de San José. Tu as en fait, c'est des anciens marais salants. Et c'est un endroit où il y a une énorme rando que j'ai déjà fait de 14 km qui est sublime. Mais t'es pas obligé de faire la rando, tu peux juste commencer à avancer. Et alors, t'as 2 choses magnifiques. La première, c'est que si tu es chanceux, à certaines périodes de l'année, le niveau d'eau est bas. Et en fait, c'est des étendues de sel blanc et l'eau est rose. Mais rose, rose bébé, tu vois, rose très pâle. Un petit peu orangé et c'est juste divin, mais malheureusement c'est pas à tous les coups, donc quand tu y vas et que tu vois ça, t'as beaucoup de chance et c'est magnifique. T'as l'impression que t'es sur une autre planète alors que tu es à un quart d'heure du centre-ville. Tu comprends pas trop ce qui se passe, mais c'est vraiment sublime. Et à cet endroit-là aussi, il y a des magnifiques couchers de soleil, mais vraiment sublimissime. Donc nous, on a l'habitude d'y aller à peu près une fois par an à l'automne quand le soleil il est vraiment très très jaune le soir. Et en fait, on fait des photos de famille en ombre chinoise, tu vois. Et c'est pour admirer, juste faire une balade au coucher de soleil, c'est vraiment sublimissime, vraiment. Ensuite,
ça donne envie.
Ouais, vraiment, si tu viens par là, fais-le, mais c'est vraiment très très beau. Ensuite, niveau plutôt magasin, tout ça, il y a Santanaro, qui est un petit centre qui est très mignon, qui rappelle un petit peu la France. Alors, c'est pas piéton 100%. Il y a une petite zone qui est piétonne. Et en fait, tu as beaucoup de petits magasins super jolis, de papeterie. C'est des magasins, des fois, qui coûtent un petit peu cher. Moi, j'appelle ça les Champs-Élysées de San José. Ça n'a rien à voir avec les Champs-Élysées, mais c'est un peu cette mentalité-là.
En termes de standing.
Ouais, c'est ça. Tu as des Tesla partout, des belles voitures partout. Et tu as des très, très, très bons restos. J'en ai testé quelques-uns. Ils sont tous excellents. Et je recommande particulièrement Left Bank, qui est notre restaurant français où on adore aller. C'est pas donné, mais c'est hyper, méga bon. Et donc voilà. Et là, en plus, en période de Noël, notamment en ce moment, il y a une déco qui est magnifique. Ils ont mis des lumières sur tous les palmiers. T'as un énorme, énorme sapin de Noël qui est magnifique. D'ailleurs, il y a une petite fête un soir. Il y a une cérémonie où ils allument ce sapin avec des danseurs, des casse-noisettes, tout ça. C'est vraiment très joli. Et t'as des énormes espèces de sculptures lumineuses de rennes, mais genre énormes. Hein, ça doit faire 5-6 mètres de haut, tu vois. Enfin, c'est vraiment, à Noël, c'est magique, c'est très, très beau. Donc voilà, Santanaro, hors Noël, juste pour la nourriture et pour se balader. Il y a un H&M, c'est le H&M, je sais pas s'il y a beaucoup d'H&M dans le coin à part celui-là, mais c'est là où je vais, moi, quand je vais à la H&M. Enfin, c'est vraiment très sympa. Et le troisième endroit, donc là, c'est réservé aux enfants, c'est le Children's Discovery Museum, qu'on avait découvert notamment quand on était venu en voyage de repérage, parce que j'avais sympathisé avec une maman américaine au parc. Parce qu'ici, tu sympathises très, très vite avec les gens. Et elle avait su qu'en fait, j'étais là pendant 3 jours, le temps que Nico, parce qu'à la base, il était venu pour le boulot. Donc moi, j'étais toute seule avec Anna toute la journée à San José. Et elle m'avait dit, viens demain, je t'emmène au musée, qui était juste à côté de là où on logeait. En plus, on était allé à pied. Et c'est un musée des enfants qui est génial. pour même Lana, tu vois, elle avait même pas 2 ans, elle avait adoré. T'as une partie spéciale pour les enfants qui font du 4 pattes, et après tu peux aller jusqu'à, je pense, 10-12 ans. T'as des activités vraiment pour tous les âges. Il est gigantesque, il est sur plusieurs étages et il est vraiment complet. Il y a des jeux d'eau, il y a des jeux à l'extérieur, il y a des crafts, il y a vraiment, enfin il est génial ce musée. Donc si vous avez des enfants entre 1 an et demi et 12 ans, vous pouvez clairement les emmener là parce que c'est vraiment, vraiment à faire, quoi. Voilà.
Écoute, c'est génial. C'est vrai que les Children's Museum à l'américaine, c'est complètement dingue. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Mais écoute, un énorme merci pour tout. Merci d'avoir partagé ton histoire, c'était super intéressant. Si nos auditeurs veulent te retrouver, ils peuvent te retrouver sur Instagram et donc sur YouTube. C'est Nycylla, N-Y-C-Y-L-A, c'est ça ?
C'est ça.
Et puis, un grand merci. Je te souhaite
merci.
Tout le meilleur.
Merci.
Et puis, je te dis à très bientôt sur le podcast.
Merci beaucoup. Tu sais que je suis une grande fan du podcast, alors je suis très contente d'avoir mis ma petite participation. Voilà.
Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des reviews que nous avons obtenues sur Apple Podcasts récemment. Un grand merci à Claire du Canada qui nous dit « Génial, tellement une bonne idée ce podcast. Expatriée au Canada depuis bientôt 4 ans, j'adore découvrir d'autres histoires d'expatriation. Merci. » Eh bien, écoute Claire, merci à toi pour ton soutien, ta fidélité et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis sur iTunes. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, @FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.